Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tous et bienvenue sur Super Laser Punch, le podcast où on parle de trucs Marvel. Alors pourquoi on dit ça en anglais et en japonais? Faudrait que je trouve la prononciation chinoise parce qu'aujourd'hui, on va parler de Shang-Chi, le film de kung-fu, de bagarre de Marvel qui est sorti il y a quelques jours à peine. Johan et moi l'avons vu, l'avons-nous aimé? C'est la grande question. Johan, comment ça va? Je suis Patrick d'ailleurs, bonjour à tous, Patrick Béja. Comment vas-tu, Johan? T'es en forme?
Eh ben, ça va très très bien, Patrick. Je suis en super forme. Je brûle d'envie de retourner au cinéma. Bon, je spoil un petit peu parce que j'ai vraiment adoré Shang-Chi. Et donc, on essaie de trouver du temps. C'est pas évident. En plus, là, il y a tellement de choses, d'autres films de cinéma qui commencent à arriver parce que je crois que Hollywood a vu que Shang-Chi marchait pas mal. Ouais. Et du coup, j'ai l'impression que ça confirme un peu toutes les sorties qui vont arriver là.
Il y en a qui ont été décalées. Hein. Je crois que il y a Mission Impossible 7 qui a été décalé. Il y a Top Gun Maverick qui a encore été décalé.
Ah ouais,
il y en a une bonne partie. Mais je sais pas si James Bond a été décalé ou pas. Je me souviens plus.
Bon, alors James Bond n'a pas été décalé.
Ouais,
James Bond se trouve entre deux autres gros blockbuster. Il y a Venom qui a avancé sa date, donc c'est quand même notable.
Moi j'ai trouvé le premier marrant, mais en fait ils se disent il faut qu'on arrive avant que l'automne soit vraiment le variant Delta. J'imagine que c'est ça. Donc on n'est pas là pour parler de tous ces problèmes, même si mon fils, ma fille et ma femme sont malades. Alors c'est a priori pas le Covid, mais je vous assure que ça fait des journées compliquées. Et je sais que toi de ton côté t'es assez occupé aussi. Donc si on fait des erreurs sur quelques détails sur le film, j'espère que vous nous en excuserez. Ça a été la course. Hein. On voulait enregistrer il y a plusieurs jours déjà et ça nous a pris un moment pour nous coordonner. Mais on est là. Et donc Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. On va faire une partie sans spoiler. Et puis, on vous dira à la fin, enfin au milieu, quand on arrivera à la partie spoiler. On vous préviendra évidemment longuement. Mais du coup, est-ce qu'on peut déjà décrire le film? Ou tu veux dire, alors tu nous as dit que tu l'avais aimé. Peut-être qu'on peut juste rapidement dire ce qu'on en a pensé. Et puis, on va quand même décrire le film aussi. Je te pose du coup la question. Tu l'as aimé ou aimé?
Ouais. Alors il y a un peu un entre-deux parce que j'avais parlé un peu dans mes attentes des choses dont j'avais un peu peur pour le film qui se sont un peu réalisées, c'est-à-dire cette grandiloquence un peu parfois cosmique, magique.
Ouais, pardon. Laissons pour la partie spoiler cette partie-là, mais je voulais te poser la question justement, effectivement.
Bon, en tout cas, voilà. En tout cas, j'étais un peu sur cet entre-deux-là, mais on va dire les parties qui dont j'avais peur finalement était cool quand même, donc tu vois ça redresse un peu la barre globale, mais j'ai beaucoup aimé les combats, les chorégraphies sont vraiment super sympas, il y a des personnages que j'ai trouvé très drôles et que je m'attendais pas en fait, tu vois, moi j'étais venu voir Shang-Chi et finalement il y a pas que Shang-Chi dedans, il y a que ce soit les personnages secondaires, que ce soit l'antagoniste, tout ça, ils ont vraiment pas mal de volume en fait en tant que personnage et du coup j'ai vraiment vraiment aimé, même quand on n'était plus dans la bagarre, même quand on était dans les, que ce soit dans les souvenirs ou dans des choses un peu plus on va dire dramatiques ou en tout cas de comédie plus stricte, et du coup ce qui fait que moi au final j'ai pas envie de classer les films du MCU, surtout pas maintenant, mais ça va rester un de mes films préférés je pense dans le top des films total du MCU pour moi en tout cas.
Bah, c'est vrai que ça a l'air d'être l'opinion générale, hein, le consensus. Tout le monde a l'air d'être plutôt positif sur le film. Et en particulier pour les premiers films, les Origin Stories, qui sont un exercice un petit peu particulier. Et là, il est vraiment apprécié. On y reviendra peut-être. Moi, pour dire rapidement aussi, j'ai, comme on en parlait dans nos attentes, bah, moi, en fait, j'attendais rien du film. J'attendais vraiment rien. Je ne savais pas à quoi... qu'en penser. Et au final, j'ai été hyper agréablement surpris. J'ai passé un très bon moment. Et c'était casse-gueule, hein, je crois, de réussir l'exercice, parce que c'est vraiment un film de kung-fu de Hong Kong, quoi. Enfin, en grande partie, évidemment, il y a la sauce Marvel. On va dire, c'est l'enfant d'un film de Hong Kong et du MCU, ce qui est exactement le but. Mais la partie film de Hong Kong, elle est hyper réussie. On y reviendra dans un instant, mais pour moi, ça a hyper bien fonctionné. Et on a à la fois le plaisir du combat et des chorégraphies hyper bien foutues dans le style de Hong Kong. C'est genre film de kung-fu. D'ailleurs, c'est, comment il s'appelle, Brad Allan, qui est l'un des chorégraphes du film, qui est malheureusement décédé depuis et qui avait travaillé avec... Avec Jackie Chan. Voilà, qui avait fait les chorégraphies de plusieurs grands films à succès de Hollywood. Et ça se voit, c'est vraiment... Il y a deux grosses scènes de combat qui sont hyper satisfaisantes quand on aime la bagarre, même un peu plus, mais deux en particulier, qui sont hyper satisfaisantes, spectaculaires. Et comme tu le disais, en plus de ça, il y a des personnages qui ne sont pas inintéressants. Et même Awkwafina, qui est l'ami pas romantique, hein, de Shang-Chi, Katie, et ben, moi je l'avais seulement vu dans Crazy Rich Asians et je l'avais trouvé vraiment qu'elle en faisait énormément et j'ai eu peur quand j'ai vu qu'elle était là. Et en fait, elle en fait beaucoup, mais ça reste juste... En fait, c'est beaucoup, mais juste comme il faut. Et ça reste assez comique, elle est drôle. En fait, je ne vais pas dire que tout fonctionne dans le film, ça serait aller un peu loin. Il y a des moments un petit peu de mou, des moments un petit peu, où tu dis, bon, ok, on devait s'attendre à un truc comme ça parce que c'est Marvel. Mais dans l'ensemble, contrairement à un film comme Black Widow, où tu en ressors avec un petit peu d'ambivalence, là, au final, je trouve qu'il est difficile de ne pas se dire, bon, si on est client de ce genre de film, bien sûr, mais il est difficile de ne pas se dire, bah ouais, ça fonctionne, c'est efficace, c'est bien, c'est sympa, c'est marrant, ça fait passer un bon moment, c'est des bons combats, on en a pour son argent, quoi, je trouve.
Ouais, je pense que s'il y a des griefs contre le film, on va s'attaquer plus à des détails, peut-être à des problèmes de structure, enfin des choses un petit peu pointues comme ça pour dire que bah, là ça va pas, enfin la narration un peu bancale, enfin on va pouvoir trouver des choses comme ça, mais si tu restes sur un sentiment global, je trouve que le film est quand même difficilement attaquable en tant que tout, en fait. Donc ouais, vraiment, je suis vraiment ravi que ce film existe. Je suis ravi de le voir qu'il cartonne autant, entre guillemets, autant, parce que bon, il y a le contexte qui fait que c'est pas non plus au niveau des chiffres.
Il a cartonné au box-office, hein, je crois, quand même, non ?
Alors, ça, il reste, si tu veux, dans les cinq plus mauvais résultats du MCU, mais à cause du Covid, quoi, évidemment. Ouais. Mais en tout cas, par rapport à ce qui se fait depuis un an, depuis deux ans, on va dire, au cinéma, oui, ça reste un gros carton. Je pense que les projections étaient bien en dessous. Tout le monde a l'air ravi. Donc j'espère que ça va justement pousser Marvel à donner confiance à ces nouveaux personnages, à ces nouvelles origin story, d'une part, mais aussi à peut-être des styles de films un peu plus, tu vois, qui s'écartent un peu de la formule, on va dire, comme on l'appelle, la formule Marvel. Et moi, ça me donne plein d'espoir pour les prochains films un peu de ce type qui vont arriver, comme Blade, qui vont être potentiellement aussi des choses un petit peu décalées par rapport à la formule. Donc voilà, pour moi, on est vraiment dans le scénario idéal pour Shang-Chi. Je suis vraiment très très content qu'il soit très bon et qu'il soit en plus... beaucoup vu au cinéma, puisqu'après il sortira aussi sur Disney+ dans pas si longtemps.
Ouais, c'est 45 jours aux États-Unis, je crois.
Ouais, c'est ça. Donc j'espère que Disney verra vraiment quelque chose sur lequel ils peuvent appuyer derrière des projets un peu similaires, quoi.
C'est ça. Mais du coup, il faut aussi noter, puisque tu parles de la conception et du style du film, c'est vrai que bah, c'était évident pour Shang-Chi, pour ceux qui ne le savent pas, c'est dans les personnages de Marvel, c'est, on va dire, une copie de Kung Fu, de la série Kung Fu. C'est inspiré par Kung Fu, en tout cas. Pas une copie, c'est pas vrai, mais c'est très inspiré par Kung Fu et c'est complètement dans la mouvance des films de Kung Fu des années 70. Et donc, le style s'impose par lui-même, quoi. On va dire que c'est évident qu'il faut faire un truc comme ça. Et à côté de ça, les films Marvel ont quand même tous un style différent, enfin chaque série a un style différent. Alors c'est peut-être un peu moins marqué que pour celui-là qui est carrément film de kung-fu, mais le style de Captain America, c'est pas le style de Ant-Man, c'est pas le style de... Bon, c'est vrai qu'il y a une formule, mais c'est vrai que aussi que chaque héros a sa catégorie de film, ce qui est en fait une méthode assez maligne pour différencier, enfin pour pas faire absolument toujours la même chose, parce que c'est vrai qu'il y a une certaine méthode, on va dire, au film Marvel, et qu'on retrouve des grands éléments dans les grandes lignes dans chacun des films. C'est un petit peu léger, ça fait, il y a des grosses scènes d'action, c'est rigolo, mais héroïque et machin. Mais l'inspiration des styles de films reste assez délimitée, je trouve. Et là, pour ce style de film-là, bah, c'était évident qu'on allait avoir un film de kung-fu. Il faut aussi dire et signaler que c'est le premier héros asiatique, le super-héros asiatique du MCU, en tout cas le premier personnage principal. Et j'ai un peu l'impression que c'est une leçon pour Marvel qu'après Black Panther, qui était le premier super-héros noir principal, on va dire titre, qui a très très bien marché, là c'est aussi une indication que bah, le risque, ce qui est considéré comme un risque en fait n'en est pas un, parce que ça fonctionne très bien vu le contexte.
Je pense que c'était Black Panther aussi avait énormément cartonné, il se hisse dans le top 5 des meilleurs démarrages de films Marvel à côté des Avengers. Dans le top 5, c'est le seul film qui n'est pas un Avenger chez Marvel, sur les périodes de lancement, hein, les premiers jours de diffusion. Et donc, ouais, clairement, on est sur quelque chose. Et puis, c'est vrai que la similitude, il y a des ponts avec Black Panther, parce qu'on arrive sur des cultures qui ne sont pas forcément souvent exposées au cinéma. Et du coup,
Black Panther, cinéma américain, on va dire.
Voilà, toute cette imagerie afro-futuriste, avec les différentes tribus, les costumes, etc. C'est pas des choses qu'on voit, surtout pas en fait dans ce type de film-là, de super-héros. Et là, Shang-Chi apporte aussi ça d'une certaine manière. Donc il y a cet aspect-là. Et comme tu disais, même si Marvel fait différents types de films à l'intérieur, on va dire, de son MCU, le film de Kung Fu n'est pas forcément un genre qui arrive régulièrement avec des aussi gros budgets, quoi. Donc je pense que même les fans, on va dire, de belles chorégraphies peuvent potentiellement s'y retrouver, même sans être complètement versés dans le MCU chez Shang-Chi. Je suis vraiment content d'en parler là, tu vois.
Oui, moi aussi ça me démangeait malgré toutes les tu vois, la course permanente que c'est à la maison depuis quelques jours, j'avais envie d'en parler. Et puis surtout, alors on va arriver au spoiler dans pas trop longtemps, mais je voudrais mentionner, puisqu'on parle de vraiment la nature du film et du style, d'une part, alors moi ça ne vous aura pas échappé, je suis pas asiatique et je suis pas chinois, mais j'ai l'impression, de ma place d'amateur de loin de films de ce genre-là, peut-être un petit peu moins aujourd'hui qu'à l'époque, j'ai l'impression, et c'est ce qu'on en entend aussi, que ça a été fait avec beaucoup de respect. Et que, surtout, en fait, ça va beaucoup plus loin dans le film de Kung Fu, dans la, comment dire, dans la copie ou l'hommage ou le style du film de Kung Fu que je ne pensais. C'est-à-dire qu'on a effectivement la partie film de Hong Kong avec les cascades de folie et les hommages même à Bruce Lee et à Jackie Chan. Et à côté de ça, il y a aussi une grosse partie film de kung-fu historique. Et là, encore une fois, on ne va pas aller dans les spoilers, mais une grosse partie film chinois kung-fu historique, qui a un nom, je suis désolé, je ne me souviens plus du nom de ce style-là, mais le style tigre et dragon, en gros, on va dire. Mmh. Et bon sang que c'est réussi, cette partie. Peut-être qu'on en parlera plus spécifiquement dans les spoilers, mais il y a une scène en particulier que j'ai envie de revoir en boucle, qui est... Mmh. Je suis sûr que tu sais de laquelle je parle.
Oui, bien sûr.
Mais qui est tellement belle. C'est vraiment, pour le coup...
C'est du combat doux.
Ouais.
Et c'est très chouette, ouais.
Mais pour le coup, c'est vraiment, je trouve, pour le MCU, une qualité cinématographique à laquelle on n'est pas forcément habitué. Moi, j'ai beaucoup d'amour, vous le savez, pour le MCU, et il y a des films qui ont une place particulière dans mon cœur et que je trouve vraiment, objectivement, très très bons. Mais là, je trouve qu'on a un niveau sur certaines scènes, hein, en particulier l'ensemble est quand même très qualité MCU, qui est élevé, mais qu'on ne va pas admirer pour son travail de direction artistique et de réalisation, on va dire. Mais là, il y a quelques scènes où on est vraiment dans un spectacle visuel émerveillant. Et que ça soit pour les décors, pour les mouvements, pour la chorégraphie, pour le jeu de caméra. Moi, j'ai été, encore une fois, sur ces certaines scènes, ces quelques scène en particulier, j'ai été absolument émerveillé, quoi. Bon, bah écoutez, on peut peut-être passer à la partie spoiler, du coup, ça te va, Johan ? T'as encore des choses à
très,
dire
très
avant
bien,
ou...
ouais. Ouais,
très
non,
bien.
C'est bon, allons-y.
Et bah alors, partie spoiler, on spoil. Si vous n'avez pas vu le film, on vous recommande très chaudement de ne pas écouter la suite de l'émission. Et on se lance, spoiler activé. Qu'est-ce que tu veux faire pour la partie spoiler ? On va en chronologie, ça risque d'être long pour tout le film, ou on parle de... ou on y va au feeling ?
Ouais, je pense qu'on peut y aller au feeling. On peut parler déjà un peu de la structure, peut-être un peu plus précisément de la structure globale. Parce que pour moi, c'est quand même assez notable cette façon d'avoir une première partie du film, on va dire, justement très film de kung-fu classique, avec des combats plutôt, on va dire, terre à terre, avec quelqu'un qui sait faire du kung-fu et qui se bat contre d'autres personnes. Et puis on bascule ensuite dans quelque chose de très très différent. Et je voulais en parler parce que justement, c'était un peu la crainte que j'avais. Donc juste.
C'est exactement la crainte que tu avais, ouais.
Ouais, c'était exactement la crainte que j'avais. Donc, ce qui va se passer, c'est que notre Shang-Chi va avoir les anneaux et devenir tout de suite, en fait, super puissant, quoi. Puissant comme un, je sais pas les niveaux de puissance, mais il va se battre comme un Thor, voilà, ou ce genre de personnage-là, quoi, avec ces anneaux qui sont super puissants. C'est beaucoup d'effets visuels, hein, d'effets spéciaux par ordinateur et tout, mais. Contrairement à ce qui.
Mais ça arrive quand même vraiment à la fin, ça, le.
Oui,
le
ça, fait ça arrive à la fin. En fait, je vais t'expliquer pourquoi j'ai une crainte là-dessus vraiment particulière. C'est que, je voulais juste dire que visuellement, c'est beaucoup d'imagerie par ordinateur, mais qu'il y a une telle direction artistique, c'est tellement. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment super, en fait. La DA rend, on va dire, tout ça magnifique. Même si ça m'a gêné sur le concept, hein, sur le principe d'en arriver là, c'est incroyable. Moi, j'ai vraiment envie d'y retourner pour revoir ces scènes-là quand même, en fait, tu vois.
Tu veux dire les scènes de combat avec les 10 anneaux
Avec les dragons et tout ça, l'eau qui fait des choses. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment, vraiment incroyable, quoi. À vivre, c'était vraiment cool. Mais en fait, le problème que j'ai avec ça, c'est que du coup, maintenant, j'ai l'impression que ça y est, Shang-Chi, c'est Thor.
Ouais.
Et on verra plus de combats comme ce qu'on a vu au début du film. Mmh. Et c'est un peu ça qui me chagrine. J'ai vraiment très envie qu'il perde ses anneaux, en fait, dès le prochain épisode, parce que je trouve que ça s'en fait un perso peut-être déjà trop fort, quoi.
Ouais. T'arrives un peu à la fin, effectivement, direct, mais je comprends. Mais moi, je pense qu'il va les perdre ou qu'il les aura pas pendant un moment. Tu sais, l'avantage qu'on a avec ça, c'est que ses pouvoirs viennent vraiment de cet objet, enfin ses pouvoirs, ce super pouvoir en particulier. Dans les comics, ouais. Shang-Chi, son super pouvoir, c'est que c'est le plus grand artiste martial au monde possible. Tu vois, il est tellement bon ouais. en combat, en arts martiaux, que ça devient carrément un super pouvoir. Mais là, oui, je crois que... Enfin, moi, je ne suis pas trop inquiet. Je pense qu'il y aura toujours une partie du film où il les aura, mais ils se démerderont pour avoir une partie du film où il fait juste du kung-fu, tu vois. Quand... Mmh. Je suis sûr qu'il y aura un 2 et je suis sûr qu'il sera là dans d'autres films. Je pense que Marvel sait que c'est pour ça qu'il est là. Donc, je ne sais pas, on verra. Mais ceci dit... Ouais. Je dois avouer que Tony Leung, que d'ailleurs j'ai trouvé que Richard Berry faisait une apparition intéressante dans ce film. Il a réussi à avoir
un rôle dans le film. Tony Leung, je vois Richard Berry aussi.
Il a vraiment quelque chose. Mais je trouve que cette manifestation des 10 anneaux, parce que dans les comics, les 10 anneaux, c'est des anneaux, des bagues qui ont chacune un pouvoir différent. Et ça fait un peu Pierre de l'Infini, en fait. Donc, j'imagine que c'est en partie pour ça qu'ils l'ont changé. Mais les 10 anneaux, c'est vraiment une conception, enfin, un concept original, intéressant, marrant, et qui donne lieu à des scènes d'action vraiment, vraiment réussies. Et je m'y attendais pas du tout à voir que ça serait ça, les 10 anneaux, mais je trouve que ça fonctionne très très bien et ça donne effectivement, ouais. c'est une puissance thoresque, quoi.
Il y a une telle inventivité, justement, justement, que ce soit dans les phases un peu kung-fu ou les phases de super-pouvoir, je trouve qu'il y a une super inventivité en fait dans l'utilisation des anneaux. Et ils s'en servent comme marche-pied, parfois pour s'accrocher, pour tomber moins vite. Enfin, je trouve que c'est vraiment super à regarder. Ils ont vraiment fait des choses vraiment chouettes. Et que parfois ils ont peut-être moins fait avec d'autres super-héros, justement. Alors, le bouclier de Captain, on a souvent vu des choses un petit peu rigolotes, mais tu vois, je trouve que même le marteau de Thor n'a pas reçu autant d'inventivité dans ses combats que les 10 anneaux là dans Shang-Chi, quoi.
C'est vrai. Et du coup, la partie où le film, parce que moi c'est de ça que je pensais que tu allais parler, la partie où le film pas bascule, mais enfin passe de du quotidien à ah oui non mais en fait il y a le royaume secret de Talo et c'est une dimension parallèle machin. Ouais. Moi j'ai pensé que c'était ça qui te gênerait un petit peu parce que c'est plus juste la bagarre.
Bah non, mais oui, c'est exact. Enfin, le côté surnaturel, ça me gêne aussi un petit peu parce que pour moi, ça mène en fait. L'un mène à l'autre. Mais effectivement, il y a ce moment où ça bascule et c'était pas un déplaisir parce que du coup, moi, je l'ai vu. Donc c'est quand Shang-Chi est capturé et arrive chez son père et où ils vont rencontrer un certain mandarin, le prisonnier dans la cave, qui parle à un animal. Fantastique.
Qui est un animal qui existe hein, dans la mythologie chinoise.
Voilà. Et qui permet justement à Awkwafina d'ailleurs de laisser son rôle de comic relief. Et ça, j'ai trouvé ça très chouette parce que du coup, au début, tu disais, ouais, elle en fait beaucoup au début, mais ça se calme en fait assez vite et petit à petit, de moins en moins. Et elle va laisser du coup le rôle de comic relief. J'ai oublié son nom, à Trevor.
Ouais, c'est ça.
Voilà. Et du coup, j'ai trouvé ça chouette, en fait, comme façon, on va dire, de mener la narration vers un personnage un peu plus, on va dire, un peu plus sérieux quand même. Mais du coup, effectivement, là, on arrive à Trevor qui comprend Maurice, je crois, l'espèce de petit animal sans tête, machin. Tu vois, et c'est là où, effectivement, ça devient quasiment un peu loufoque, quoi. Et moi, ça m'a un petit peu sorti, mais en même temps, comme c'est drôle, tu vois, je suis pas mécontent pendant ma séance. Mais effectivement, à partir de là, ça devient un peu n'importe quoi. Donc du coup, le père qui a mis des années à chercher comment aller à cet endroit-là, eux, ils vont y aller en 5 minutes, guidés par un animal qui pousse des couinements, traduit par un acteur raté. Tu vois, ça... c'est... Ok, d'accord. Bon, l'important, c'est qu'on arrive au village, mais bon, quand même.
Ouais, ouais. Moi, je suis... Ouais, ça m'a aussi... Disons que... Je sais pas. Je trouve que ça fonctionne. Peut-être que ça aurait été mieux qu'il reste dans l'aspect juste kung-fu terre-à-terre. Mais au final, c'est un grand troisième acte Marvel un petit peu classique mais qui fonctionne. C'est pas le truc le plus original qui soit, même si bon, spécifiquement ces visuels, ces idées, ces concepts, ça c'est suffisamment original pour que ça passe, et puis c'est bien foutu. Mais c'est vrai que disons que c'est pas un piège non plus, mais c'est là qu'on retrouve peut-être des éléments de la formule, de l'archétype du film Marvel, où à la fin il doit y avoir une grande bataille avec des effets spéciaux, machin. Parfois ça marche, parfois ça marche bien. Bon, c'est quand même toujours le truc qui se produit, quoi. D'ailleurs, tu mentionnais notre ami Comic Relief. Moi, j'étais content qu'il le ramène parce que ça voulait dire que, un petit peu comme quand il parle de Thor 2 dans Endgame, il ne renie pas leur film, tu vois. C'est vraiment une affirmation de bah oui, c'est bien lui, c'est bien ça. Ouais. Et je trouve qu'il, tu sais, on dit en anglais, he outstays his welcome. Il est là peut-être un poil trop, peut-être un tout petit peu, mais je suis quand même content qu'il ait été là. Et j'ai trouvé que la manière dont ils expliquent l'histoire des Ten Rings dans le 3 et pourquoi il n'était pas là, il n'est pas venu taper tout le monde et machin, avec en fait, si je ne me trompe pas sur la timeline, à peu de choses près, quand il a rencontré sa femme, bah il s'est retiré du monde du crime et donc il n'était plus vraiment actif, même après qu'elle soit morte, il était complètement obsédé par d'autres choses, on va dire, par le fait de la venger, etc. Et donc, ça explique un petit peu pourquoi les Ten Rings n'étaient pas présents partout. Et puis, il y a eu quelques entités qui ont utilisé leur nom, qui ont été financées par eux, mais ce n'était pas une force majeure dans la géopolitique mondiale, les Ten Rings, alors que pendant un millier d'années, ils faisaient ils influençaient énormément la géopolitique. Ouais. J'ai trouvé ça assez habile, tu vois. Il s'est dit, oh, ok, il s'est marié, il a promis qu'il arrêtait, donc pourquoi pas.
Ouais, et finalement, côté timeline, ça tient assez bien. Ouais, c'est comme ce que tu dis, hein, j'ai compris pareil. Hein, c'est-à-dire qu'il s'est complètement retiré de cette histoire-là.
Et c'est
quand
crédible,
il a rencontré,
quoi.
Du coup, sa femme, c'est crédible. Et effectivement, quand elle est morte, lui, sa priorité, c'était de retrouver à la fois l'assassin et de retrouver ce village-là. Donc, il était plus dans la manipulation géopolitique, quoi. Tout ce temps-là, et du coup je m'étais posé la question au tout début quand justement ils expliquent que ce personnage-là il est là depuis des milliers d'années et il dirige le monde dans l'ombre. Ça m'a tout de suite fait penser au méchant de Black Widow, quoi, qui fait la même chose, hein. Il est dans l'ombre et il a les assassins qui vont faire shifter les gouvernements, et j'étais en train de me dire attends, s'ils font tous les deux ça en même temps, est-ce qu'ils se mettent d'accord, est-ce qu'ils rentrent en collision et tout ça, mais en fait non, ils se croisent pas, parce que les Ten Rings ne font plus ça. Et l'autre chose que j'ai bien aimé justement sur la révélation, donc sur le nom, le mandarin, hein, il se moque de cette appellation-là dans le film. Je trouvais ça bien parce que ça bascule un peu le concept, c'est-à-dire que le côté le mandarin, qui est un peu quand même une caricature un peu limite de grand méchant chinois, on va dire. Le côté, c'est les Américains, ils ont inventé ce personnage-là comme croque-mitaine, quoi, pour faire peur. Mmh. Et c'est un peu ridicule, quoi. Regardez, ils m'ont appelé comme une orange, mandarin, mandarine, etc. Donc, et je trouvais ça plutôt habile. Alors, c'est pas grand-chose non plus, mais je trouvais ça plutôt bien fait, en gardant, on va dire, la teneur et puis de ce personnage-là qui est super chouette, hein, j'oublie son nom dans le film, il donne son nom à un moment donné, mais je ne me souviens plus.
Wenwu,
voilà. Ouais. Franchement, j'ai adoré. Je suis vraiment triste qu'il soit plus là.
Son âme a été dévorée par un truc. Mais en même temps, le machin, il a un peu explosé. Mais peut-être qu'il envoie les âmes ailleurs. D'ailleurs, peut-être que c'est un bon moment pour parler de. On saute un petit peu du coq à l'âne et dans tous les sens, mais pour parler du monstre justement qui envahissait Talo qui est une dimension civilisation en parallèle à la Terre, on va dire, à celle de la Terre, qui dans les comics est comparable à Asgard, en fait. C'est un petit peu l'Asgard asiatique, on va dire les choses comme ça, et c'est comme ça qu'ils l'ont transformé ici. C'est intéressant de voir qu'ils disent, attendez, on a aussi des grandes villes, enfin c'est très très grand chez nous, c'est pas juste ce village, donc ça ouvre sur beaucoup plus, mais du coup le grand méchant commun, cette sorte de calamar cthulhuesque qui vole les âmes, et où elles vont les âmes, c'est-à-dire qu'il y a des âmes, ça pose plein de questions, mais qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de cette insertion qui vient un petit peu de nulle part de Cthulhu, de choses cthulhuesques, encore que je dis qu'il vient de nulle part, mais on a eu des références à des grandes tentacules dans What If à deux reprises, donc peut-être qu'ils sont en train de montrer un petit peu quelque chose là, d'installer une idée, mais ouais, t'en as pensé quoi du coup de ce grand méchant?
Ouais, alors c'est un grand méchant un peu classique, hein, enfin, une espèce d'entité qui envahit les dimensions, qui passe de dimension en dimension et qui absorbe tout. Là, moi, j'ai pas été super convaincu. J'ai trouvé le boss de fin assez sympa visuellement. Il y a vraiment, j'ai vraiment senti une tension quand il commençait à absorber l'âme du dragon là. Tu sens que qu'il va y avoir des gros problèmes. Mais sinon, non, c'est un peu basique quoi. C'est les monstres, tu sais. C'est des monstres. Ouais, ça pourrait être n'importe quel monstre.
C'est des monstres.
Quoi,
hein. Tu peux t'arrêter. C'est des monstres, voilà.
Voilà, c'est des monstres. Et puis en plus, il y a pas vraiment beaucoup d'explications là-dessus. Alors moi, j'ai compris que du coup, Talo, ils avaient tout envahi. Hein. Il reste que le village. Et ils sont bloqués dans l'espèce de montagne, mais que
donc ils ont tout détruit, mais ils sont plus là. Donc moi je suis sûr qu'il y a des gens qui y sont retournés ou qui a, tu vois, il peut se passer des trucs dans cette partie de Talo parce qu'ils sont plus là. Sinon ils ont été enfermés par les monstres. Ils ont été enfermés par la.
Mais pour moi
dragon,
ils ont été enfermés dans le reste de Talo, tu vois. Pour moi c'était. Ils se sont enfuis là et ils ont fermé derrière eux quoi, tu vois.
Ah d'accord, ils ont fermé la porte, ils ont jeté la clé, tout ça. Ça me paraît très bizarre qu'il n'y ait que cette entrée pour aller à tout le reste du continent. Ouais. Genre, alors là, tu vois ce tunnel, c'est par là. Ok. Ouais. Mais peut-être. D'accord. Oui, je suis assez d'accord avec ton analyse là-dessus. On n'a pas parlé du tout de Menger Zhang qui joue Xia Ling, la sœur de Shang-Chi.
J'ai l'impression que le film non plus n'en a pas du tout parlé.
Mais... un petit peu quand même, hein. Mais à vrai dire, moi j'aurais beaucoup aimé que ça soit elle qui chope les 10 anneaux. Genre qu'à la fin vraiment, ça aurait été.
Ils ont les 5 chacun au moins.
Au minimum, ouais, au minimum. Mais ouais, du coup, tu penses quoi de ces scènes?
J'ai pas du tout aimé le personnage. Ouais, alors c'est pas de son fait, hein, mais je trouve que le film ne la sert pas vraiment. Elle n'a pas beaucoup de lignes de dialogue. Elle est, je trouve, très vite mise un peu en arrière-plan, même si elle se bat aussi à la fin sur le dragon et tout ça. Mais je trouvais que c'est un personnage assez effacé qui n'est là quasiment que pour teaser quelque chose, puisque du coup elle est dans la deuxième scène post-générique. Et qu'en fait, si tu la retires du film, la trame se tient pareil, quoi. Donc je trouve ça assez dommage en fait sur ce personnage-là. Après, ils disent quelque chose avec elle a mis l'assassinat pour tous à la fin. Elle autorise les femmes à devenir assassins dans son organisation.
L'assassinat donc, pour tous, c'est pas mal.
et donc, on verra ce que ça donne. Je suis pas spécialement hypé par la suite de son histoire, mais on charge à Marvel de me faire changer d'avis.
Ouais. Oui, c'est pas impossible. Mais du coup, ça nous amène à parler de du tournoi de classique de films d'arts martiaux et donc de son organisation. Et il y avait d'ailleurs dans les petits combats qu'on voyait ici et là un personnage qui était l'une des widows de Black Widow qui se battait
contre un mec de Iron Man 3 là, les mecs qui sont modifiés. Et est-ce que tu as vu la référence à Street Fighter 2 ou pas dans ces cas?
À Street Fighter 2, ah non, j'ai pas vu celle-là. Enfin, il y a le sumo, mais.
Quand, Oui, ben il y a un sumo qui est habillé, enfin qui a les mêmes couleurs que Honda et qui se bat contre un mec en kimono blanc. Enfin, ça fait très Honda versus Ryu. Quoi. J'ai eu du mal à penser que c'était pas volontaire, mais.
Ah peut-être, d'accord. J'avais pas vu qu'il avait les couleurs de Honda parce que Honda a des peintures souvent sur les visages que lui n'avait pas, mais.
Potentiellement une petite référence.
C'est possible, c'est possible.
Je pensais que c'était aléatoire, mais.
Et moi, j'ai été. Et comme souvent, j'avais vraiment pas vu de trailer. Je sais pas, j'imagine que c'était pas dans les trailers, mais du coup, j'ai été vraiment hyper heureux et surpris de voir Wong, d'une part, bien sûr, mais de voir Abomination.
Ah oui.
Qui est, et là encore, c'est une affirmation de tous les films Marvel, puisque évidemment Abomination était le méchant, c'était le faux Hulk dans Hulk, à une époque où tous les méchants c'était des faux héros dans les films Marvel. Mais du coup, j'ai été très très heureux de voir Emile Abomination revenir.
Ouais, et c'est le même acteur, hein. C'est l'acteur d'origine qui est venu faire les grognements.
Ah, c'est vrai? Ah, ça, donc, je ne savais pas. Ouais, comment il s'appelle déjà? J'ai oublié, son nom m'échappe tout à coup.
Enfin, attends. Que tu le trouves, parce que...
Émile, je ne sais pas. Bon, bref, peu importe, mais les auditeurs, parce qu'il est très connu en plus. Bref, on s'en fout. Ouais, donc, ouais. Donc oui, c'était donc lui.
Ouais.
Ça m'a fait très, très plaisir.
On ne sait pas trop ce qu'ils sont venus faire. Je trouve ça assez rigolo, donc j'ai l'impression que... Que du coup Wong le ramène quelque part, et donc du coup ils viennent juste se mettre, ils viennent juste se battre un petit peu, ils repartent.
Ouais, je crois que.
Alors c'était. De savoir un petit peu s'il y a une explication ou pas.
C'est Tim Roth l'acteur.
Oui, c'est ça.
Je crois que c'est juste pour l'introduire. Il serait visiblement dans une autre propriété Marvel que je vais pas mentionner, mais à venir bien sûr. Mais je crois que c'est genre un programme de réhabilitation parce qu'il a du mal à se contrôler, etc. Et il lui apprend à mieux se contrôler. Et on a l'impression que quand il repart dans le raft peut-être, possiblement la prison, tu sais. Donc oui. Il est encore en prison. Mais bon, en même temps, pourquoi est-ce qu'ils sont venus là pour se battre? Peut-être ouais. Pour...
Tant qu'à s'entraîner, tant qu'à gagner de l'argent. Hein.
C'est peut-être ça. Ou alors, c'est pour avoir un environnement avec beaucoup de bruit, un environnement différent. Et puis, qu'est-ce qu'on s'en fout? On se pose des questions. Il n'y a pas de raison, c'est pour faire de la bagarre.
Il n'y a pas besoin. C'était vraiment...
C'est ça, ouais.
C'était vraiment fun. Et l'autre... Alors, il y a une autre référence que, donc, du coup, j'ai captée après, hein, grâce à des vidéos sur YouTube, mais... Le mec dans le bus qui se met à filmer, tu sais, il ouvre TikTok au moment où Shang-Chi se bat pour dire hey, « Hé les gars, alors j'ai fait karaté au CP, je vais noter cette bagarre. » Et donc ce mec-là, il est déjà dans le MCU.
Dans Marvel,
en fait.
Dans Spider-Man, ouais.
Ouais, c'est ça, c'est dans Spider-Man. Et, ouais. Il a déménagé, il est parti de New York pour aller à Francisco.
Ou alors, il était juste en balade, hein, tout simplement.
Et du coup, en fait, ça j'aime bien, en fait. C'est des trucs mineurs, et il rappelle comme ça des petits personnages vraiment mineurs pour les faire revenir ailleurs et tout ça. Je trouve ça vraiment sympa, ça donne un peu, ça renforce cet aspect un petit peu connecté, univers partagé. C'est, ça paye pas de mine, quoi, mais c'est sympa, quoi.
C'est le genre de truc fan service qui fait sourire, c'est juste pour ça, quoi. Donc, moi, j'ai pas dit grand-chose de Xia Ling. Je la trouve effectivement qu'elle est malheureusement très accessoire dans l'histoire, mais je l'ai trouvée au niveau... tu le disais, c'est pas de sa faute, mais elle a pas grand-chose à dire et à faire dans l'histoire, donc elle est un peu en retrait. Mais par contre, au niveau des arts martiaux, elle était, complètement au niveau, et elle me fait presque penser à Yuri de Street Fighter, Street Fighter 5, qui est... Et elle a dans son combat avec son frère, en particulier, bien sûr, je l'ai trouvé hyper, hyper efficace. Et je me dis, oui, ils auraient pu l'enlever, mais du coup, ça faisait tellement peu de personnages féminins que, encore que, c'est tous des personnages secondaires, mais j'ai trouvé très, très bien aussi Michelle Yeoh, que généralement, j'adore pas. Je suis pas super super fan de Michelle Yeoh, mais là dans Talo, quand elle fait ses démonstrations d'arts martiaux semi tai chi machin, là encore j'ai trouvé ça d'une élégance et d'une beauté, ces scènes là et en fait c'est un petit peu la moitié de mon, pas la moitié, mais une bonne partie de mon admiration, pas de mon admiration, c'est fort, mais mon appréciation du film, c'est Fa La Chen qui joue Lee. J'ai IMDB ouvert devant les yeux, hein, je connais pas tous les noms de toutes ces actrices, mais Fa La Chen qui joue Lee, donc la femme de Wen Wu, et Michelle Yeoh qui joue sa sœur, qui font leur démonstration de Shang-Chi de combat, et c'est, de Shang-Chi, pardon, de Tai Chi de combat.
Ouais.
Et c'est vraiment magnifique. Je crois que je pourrais le dire 15 fois. Pour les deux, c'est les scènes qui m'ont largement le plus marqué, quoi.
Ouais, et puis tout ça, donc du coup, toutes ces techniques là qui vont s'entremêler sur le personnage de Shang-Chi, qui du coup, lui, va à la fois finalement utiliser les techniques de son père et les techniques du coup de côté de sa mère et tout ça, et qui va mélanger ça dans son combat final. Voilà, c'est vraiment chouette en fait d'avoir ces différentes influences qui vont se regrouper. Sur cette même note, je regrette un petit peu. Alors c'est un début de critique que j'ai là sur cette phase de Marvel. C'est ce côté famille qui commence à revenir un peu trop souvent. Là on est
entre Black
à nouveau
Widow
dans une intrigue entre Black Widow et puis je pense que ça va pas s'amenuiser, parce que si on a bien un film, les 4 Fantastiques qui vont arriver, ça sera encore probablement un peu sur
ça c'est pas pour tout de suite, hein. Mais les Éternels, c'est une famille, voilà, normalement,
voilà, c'est à ça que je pensais, et du coup j'ai l'impression qu'on arrive, enfin que ça commence à faire redondant, parce que ça date d'avant Black Widow, hein, les intrigues familiales avec Stark et son père, etc. Enfin, les problématiques, les daddy issues et tout ça, c'est des choses qui commencent à être un petit peu rincées, je trouve. Alors, bon, il y a un peu de fraîcheur de ce côté-là, parce que du coup, tu as toute cette notion de qu'est-ce que c'est qu'être un peu américain, qu'est-ce que c'est qu'être chinois, qui est un peu abordé sur le personnage d'Awkwafina, qui ne parle pas chinois et qui a pourtant une famille très, très chinoise, en tout cas d'un point de vue traditionnel, j'ai l'impression, hein, je suis loin d'être un expert. Et en tout cas, il y a toute cette problématique de voilà.
Mais ce qu'il y a, c'est que c'est effectivement clairement l'un des thèmes et l'héritage et la présence des ancêtres et machin, mais ça, c'est quelque chose de très asiatique et en particulier de très chinois. Donc, c'est un peu, pour ce film en particulier, ça fait partie de la, comment dire, de la thématique traditionnelle qu'ils abordent par culturel, tu vois, c'est presque un aspect culturel du sujet dont il parle, donc j'ai du mal à lui en vouloir pour ça personnellement, même si je comprends que oui, ça fait.
J'en veux pas non plus, mais voilà, ça, quand tu analyses un petit peu effectivement la thématique et ce qui s'y dit, on va s'apercevoir que on risque d'arriver dans un peu des redondances sur les prochains films. Donc
peut-être. Ouais. Hein, mais... Tu sais quoi, tout ça c'est peut-être vrai, mais il y a quand même cette scène avec Fa La Chen et Tony Leung où ils font cette sorte de ballet incroyable où tu vois qu'ils tombent amoureux pendant qu'ils se battent au ralenti avec ces regards langoureux. C'est en fait, quand je raconterai comment on s'est rencontrés à mes enfants quand ils seront grands, je raconterai comme ça en fait. Ça sera.
t'es venu détruire la Suède,
la Finlande, mais pas tout à fait.
Pardon, excuse-moi.
On peut adapter. J'étais allé, acheter des pizzas surgelées, et puis peut-être un petit peu moins ambitieux. Je crois que on commence à avoir fait un petit peu le tour. Est-ce qu'il y a une chose que tu veux évoquer avant la? On a évoqué déjà la deuxième scène post-crédit, même si on peut peut-être en reparler un tout petit peu si tu veux. Mais la première scène post-crédit, ou est-ce que tu veux
avant d'arriver sur la première scène post-crédit, je voulais juste un peu redonner aussi un peu de redire à quel point c'était chouette de voir ces combats en début de film, la scène du bus, la scène des échafaudages, qui t'offre en fait des combats et de l'action limpide. Tu vois tout ce que font les personnages. Alors, c'est un peu plus coupé que sur des films Hong Kong, hein, où là, les mecs, tu vois vraiment les combats sur des longs plans sans coupure. Là, ça reste un peu plus hollywoodien, mais c'est limpide, c'est super à regarder.
Il y a beaucoup de caméras.
C'est un vrai reproche que j'avais.
Il y a peu de coupures, quoi, entre les...
Ça. Et j'espère, sans faire du kung-fu, j'aimerais bien voir ça aussi sur voilà, sur plus de films du MCU. Alors je sais qu'il y a eu des efforts de fait côté Captain America, mais voilà. Et quand on voit le combat final, où là pour le coup on revient, comme tu disais, sur du classique où ça coupe un peu beaucoup plus, etc. J'espère que le MCU saura nous offrir, on va dire, des chorégraphies aussi sympas que celles de Shang-Chi, même en dehors des films un peu kung-fu, quoi.
Ouais.
Puis, c'est tout. Puis on peut passer, si tu veux, à la. À la scène.
Bah allons-y, oui. Du coup, la première scène post-crédit avec déjà la discussion entre Katie et Sean et leurs amis qui est assez délicieuse. Hein, et où elle dit d'ailleurs, et là, il a fait un kamehameha. J'ai adoré, parce qu'évidemment, on y a pensé, quoi. Quand il réunit les anneaux qui changent de couleur parce qu'ils sont gentils, quand c'est lui qui les. Enfin, il a une énergie différente. Et on y a tous pensé, je pense. C'est le kamehameha classique. Et elle le dit, donc ça m'a fait sourire. Puis il y a Wong qui arrive, c'est très drôle. Et donc, le signal qui est envoyé par ces anneaux que personne ne connaît, ni Captain Marvel, ni Hulk, qui d'ailleurs, il a pris 10 ans hein, sur ces 2 ans, Bruce Banner.
Et Bruce Banner d'ailleurs, pas Hulk.
Pas professeur pas Hulk, ouais. Hulk.
Ouais, c'est ça. Donc,
À mon avis, ils avaient plus d'argent pour faire les effets spéciaux, tu vois. C'est un petit studio quand même, donc ils se sont dit, allez, on va juste prendre Bruce Banner, ils adapteront ensuite. Et il a le bras en écharpe aussi, donc ça se soigne pas vite. Hein. Ouais. Ça se soigne pas vite, son truc, les gantelets d'infinité, ça fait mal, mine de rien. Ah.
Ne faites pas ça chez vous. Hein.
C'est ça. Environnement contrôlé, absolument. Et donc oui, ce beacon, ce signal qui est envoyé où, quoi, comment. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de la scène? Et puis ensuite, ils font du karaoké. Bon, c'était rigolo. Ouais. Et on aurait pu parler de l'hôtel et de leur travail, etc. Mais bon, peu importe. Qu'est-ce que tu as pensé de la scène? Et puis surtout, qu'est-ce que tu penses que ça va appeler, ce beacon?
Alors, du coup, moi, c'est plutôt les scènes post-génériques que j'aime bien. C'est celles qui te teasent, on va dire, sur la suite, qui te donnent envie de savoir qu'est-ce que ça va être, etc. Donc, c'est moins évident que le marteau de Thor planté au milieu du désert. Hein. mais voilà, j'ai l'impression, moi, que ça va nous parler des Éternels. On verra ça, j'espère, bientôt. J'espère qu'on n'aura pas la réponse dans 2 ans, quoi.
Ouais. Alors, je crois que les Éternels étaient censés sortir à l'origine avant Shang-Chi, non?
Non, pas à ma connaissance.
Ah non? D'accord, ok.
Il me semble qu'ils ont tout décalé d'un
bloc
ensemble, quoi. Ouais.
Ok. Ah, ouais. Mais ok, ça serait... Ok, peut-être, ouais, peut-être. Ça serait pas impossible, voilà. Effectivement, que cette arme, ou enfin ces anneaux qui ne sont, comme je disais, c'est pas du vibranium, c'est pas des armes Chitauri, c'est rien de tout ça, donc personne ne connaît ça. Peut-être que ça serait un truc des Éternels. Et là, je serais curieux de savoir comment ils ont fait pour que les Éternels ne soient pas là pendant tout le run du MCU encore.
Mais, ils vont devoir un peu l'expliquer. Hein.
Ouais, c'est clair. Mais donc, toi, tu crois que c'est lié à ça? Ok.
Ouais, je pense que c'est lié à ça. Alors, que ça soit un beacon, je sais pas pour appeler quoi, mais.
Mais peut-être lié à ça.
Ouais. Et puis après, effectivement, il y a le karaoké. Moi, j'ai trouvé ça à mourir de rire. Surtout connaissant le passé de. Enfin, le tempérament de Wong, hein, qui sait qu'il aime bien écouter de la musique pop et chanter en même temps. Donc j'ai trouvé ça. En fait, je m'attendais pas à ce callback parce que c'est une réplique hein, d'une scène du tout début, qui était déjà relativement drôle. Et je trouve que c'était vraiment très très drôle d'avoir ce callback là avec Wong en plus, qui avait l'air d'être ravi d'être de retour sur Shang-Chi aussi. Donc.
Ouais. Mais c'est marrant parce qu'en plus ça donne un petit peu de profondeur cette histoire de karaoké à Awkwafina qui au début elle se dit moi je suis avec mon pote Sean et on déconne et on se fout de tout et tout ça et ils font ce truc de avant d'aller au karaoké genre on pourrait aussi faire ça machin et quand elle découvre que Sean et en fait a tout un passif et il a une raison pour être le raté qu'il est et qu'il se cache et machin. Du coup, elle, ça la laisse un petit peu le cul pas entre deux chaises, mais enfin elle a rien. Sa justification, enfin son ami qui lui aussi. Et d'ailleurs, c'est très bien qu'il reste ami, même s'il y a un mini ambiguïté. Moi, je suis content que ça soit pas genre c'est juste sa copine, romantique, mais
elle n'avait pas besoin quoi.
C'est ça. Et du coup, elle. elle, au moment où elle découvre ça, elle se dit, mais attends, mais du coup, en fait, toi, t'es pas juste un loser qui... Et quand on le revoit à la fin, bah, elle a quand même... Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tiré une flèche sur quelque chose, mais je veux dire, ça a mis quelque chose dans sa vie, tu vois. On a l'impression qu'elle est beaucoup plus volontaire, qu'elle a plus envie de trucs, qu'elle veut faire des... Je sais pas, on a l'impression que sa vie a pris un autre tournant, et du coup, qu'elle fasse le karaoké à ce moment, c'est plus la même chose, quoi. J'ai trouvé ça pas mal. Bah écoute, je crois, bah, comme on disait, ouais, qu'on a fait le tour, hein, c'était ouais. Une bonne petite discussion. Merci, Johan, d'avoir passé ce moment avec
moi.
Merci,
ouais. C'était très bien.
Alors, la suite, on fera un petit épisode pour 3 What If, je pense, dans une semaine
ouais,
ou deux.
C'est ça.
Mmh. Ah mais attends, on est mercredi, il y a un What If de là, ce oui. matin que j'ai pas vu encore parce que les enfants
j'ai
sont
pas vu non plus.
Oh là 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 là, bon bah écoute, du coup la semaine prochaine on en fera un avec les trois, les épisodes 4, 5 et 6. Et puis au-delà ouais. de ça, on reviendra évidemment pour d'autres choses, pour continuer nos aventures marvelesques, super-héroesques, d'autres origines aussi et peut-être d'autres choses possiblement. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver entre-temps, dis-moi?
On peut me retrouver sur Twitter à yohant_, où je vais parler beaucoup de jeux vidéo, je pense, dans les jours à venir, parce qu'il y a plein de sorties trop bien. J'ai mon Tales of Arise qui me regarde.
Ah, tu l'as déjà, la pièce, quelle chance. Ah, ouais.
Je l'ai eu déjà. Et donc voilà, donc, vous pouvez venir discuter avec moi là-bas sans problème.
Ça marche, Tales of Arise, on en parlera demain dans le rendez-vous jeu d'ailleurs, puisqu'il sort un jour plus tard, je crois, ou oui, dans deux jours, c'est ça.
Il sort vendredi,
c'est inhabituel pour une sortie de jeu, mais bon. Bref, on en parlera dans le rendez-vous jeu. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook, Instagram et partout ailleurs. Vous pouvez trouver sur notepatrick.com les liens vers tout ce que je fais, absolument tout, est réuni là-dessus. Notepatrick.com, c'est un lien facile à retenir. On vous fait de grosses bises et on vous dit à la semaine prochaine, du coup. Ciao à tous.